Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour une émission très spéciale puisqu'elle est consacrée au 29e prix des auditeurs du Masque et la Plume, un prix de cinéphiles passionnés, incorruptibles et France-Interiens qui est né, je le rappelle, en 1990 et que sont venus recevoir à cette tribune des cinéastes aussi variés que Claude Sautet, Maurice Pialat, André Téchiné, Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Jeunet, Jacques Audiard, Arnaud Desplechin ou encore François Ozon. Un prix qui doit son prix, si j'ose dire, à vos milliers de votes qui nous parviennent des cinq coins de la France, mais aussi de l'étranger. Autour de moi pour commenter ce soir le palmarès, votre palmarès à vous les auditeurs d'Inter, les critiques Daniel Eman de Bande à part, Pierre Murat, Pierrot de Télérama, Nicolas Chalère de l'Obs et bien sûr votre lauréat français que vous pourrez tout à l'heure applaudir et bien sûr aussi interroger. Et on commence, si vous le voulez bien, mes enfants, par le palmarès des 10 films étrangers qui arrivent en tête, loin devant notamment, ça m'a un peu surpris, La forme de l'eau, Le poirier sauvage, Une affaire de famille, Dogman, Capharnaüm, ça je comprends mieux, oui. Ou encore non. Black Klansman. Si. Il faut dire aussi que certains films sont sortis tard
très
dans
tard.
L'année.
Comme Une affaire de famille.
Moins enregistrés dans les votes des auditeurs que ceux qui sont sortis au début de l'année. À la 10e place, The Guilty du Danois Gustav Möller, un thriller en huis clos où le suspense est au bout de la ligne 112, appel d'urgence de la police. Un film qui a quand même récolté 260 000 entrées en France.
C'est sympathique, c'est un bon film, un bon petit premier film concept avec un vrai défi. Après, j'ai découvert un cinéaste et un univers très original, mais il a su montrer qu'il était habile. Voilà,
c'est habile.
Oui, non, bah voilà, le suspense passe uniquement par les mots. Effectivement, il y a une dame.
Eh ben, vous êtes passionné, hein.
Voilà. Non.
À la 9e place, The Rider de la sino-américaine Chloé Zhao, où mon amour des chevaux, il faut dire, a été servi, même s'ils ont méchamment désarçonné le héros de ce film que je trouve très fort.
Alors ça, c'est très très bien. C'est vraiment une vraie révélation. Elle avait déjà fait un film, cette cinéaste.
Oui, qui était très bien.
Tout à fait formidable. Et là, c'est vraiment la plongée dans ce type qui ne rêve que de faire du rodéo. Et ça pourrait être totalement embêtant et ennuyeux. Et c'est passionnant, c'est douloureux. C'est vraiment un très, 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 très
il a vraiment des plaques dans la tête, hein.
Oui.
Si j'ose dire.
On arrive à être passionné par ce type totalement cabossé, totalement abîmé, jusqu'au bout. On n'a qu'une idée, c'est qu'il remonte à cheval. On a peut-être tort. Mais en plus, la nature et les chevaux sont magnifiques.
Non, très beau film. Je suis ravi que ce film, très grand film, un blé digne sur un cow-boy d'aujourd'hui, soit là. Et c'est étonnant. Et malheureusement, la Chloé Zhao, qui a beaucoup de talent, était engagée par Marvel et Disney pour faire un prochain film de super-héros.
Ah, mauvaise nouvelle. 8e place, L'étau du russe Kirill Serebrennikov. Ah. Long film, 2h06 en noir et blanc sur la scène rock du Leningrad des années 80, qui a quand même récolté 170 000 groupies en France.
C'est un film, oui, c'est Kirill Serebrennikov se révèle. Déjà, il avait fait un film magnifique qui s'appelait Le Disciple, sur lequel je reviens toujours. Et là, c'est splendide. C'est à la fois d'une liberté de ton, de construction, avec un personnage absolument superbe qui arrive là en disant « ça aurait pu être, mais ça n'a pas été ». C'est génial.
Oui. Non, mais c'est voilà le rock russe underground à Leningrad dans les années 80, c'est totalement des paysans et on a voilà. On
t'aimes, t'aimes mieux la BO de Guy que la BO de Leto.
Carrément, c'est de mon âge.
Nicolas.
Bah c'est sexe, drogue et rock and roll, sans sexe, sans la drogue, mais avec beaucoup de vodka. Et mais non, mais c'est un très beau film sur l'innocence, sur une parenthèse enchantée, la mélancolie c'est d'une parenthèse qu'on sait déjà qui va se refermer. Et je suis étonné moi qu'il arrive aussi haut parce qu'il a pas fait autant d'entrées qu'il aurait pu en faire. Je crois même pas 95 000.
170 000.
170 000. J'ai une grosse bêtise. Je m'excuse. Je m'excuse aux auditeurs.
À la septième place, les auditeurs ont choisi Woman at War, le thriller de l'Islandais Benedict Erlingsson, où une femme se bat seule contre une multinationale de l'aluminium qui lorgne sur l'Islande.
Oui. Ouais. Alors là, c'est quand même une surprise, là, quand même, parce que c'est là aussi, c'est sympatoche, c'est burlesque, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand on voit en effet.
Sympatoche, je dirais pas ça, mais
c'est. Si, c'est assez sympatoche. Et alors, mais par rapport à des films qui sont pas loin, mais comme Une pluie sans fin ou Le poirier sauvage, il est vraiment surcoté de la part de nos chers auditeurs.
Oui, non. Oui, vas-y.
Moi, je suis content. Une espèce de Rambo écolo-féministe, filmé
Rambo
par un.
Rambo écolo-féministe.
filmé par un ersatz de Wes Anderson et Mirko Kusturica. Moi, je suis très étonné qu'il soit là. Mais c'est un
tu mets trop de références dans une seule phrase. Je fais des choix.
Ben oui, mais lui, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à synthétiser tout ça et en même temps à faire un film très très personnel, enfin, avoir un vrai ton. Et je suis ravi qu'il soit là. Il était à la semaine de la critique cette année et je pensais pas qu'il aurait ça aurait été un vrai succès cet été de cinéma d'auteur.
Non,
ben, je suis assez ravi.
Un thriller islando-franco-ukrainien et quand même une solide fable écologique avec une sacrée bonne femme contre l'aluminium. C'est pas mal.
Sixième place, le film à nouveau en noir et blanc qui a obtenu le prix de la mise en scène à Cannes, Cold War du polonais Paweł Pawlikowski.
Pawlikowski.
Excuse-moi,
Muratovski.
Excuse-moi, Muratovski.
Je t'en prie, je t'en prie.
Pawlikowski, les allers-retours entre la Pologne et la France dans les années 50-60 sur fond de guerre froide d'une jeune chanteuse et d'un musicien. 340 000 spectateurs français.
Ah ben ça, moi, je suis ravi parce que c'est un film qui a été scandaleusement accueilli au Masque et la Plume. Notamment par mon excellent confrère Nicolas Chalère, ici présent. Et pour moi,
Je me souviens qu'on préférait Ida.
Oui,
même mais j'aime beaucoup Ida. Ça m'empêche pas d'aimer ce film qui est un film sur la passion, mais traité avec un classicisme et une rigueur. C'est magnifique.
Non, moi, je trouve que Pawlikowski est très surestimé. Je trouve l'actrice absolument formidable, et malheureusement, le film n'est pas à sa hauteur. Je trouve que
c'est Joanna Kulig,
effectivement, qui est incandescente, mais lui, il fiche ça dans des images d'épinal.
C'est absolument tout, ce film.
Je trouve ça très figé.
C'est absolument tout, sauf
des ellipses aberrantes, Non, je trouve que c'est une fausse valeur, mais bon.
C'est magnifique. On navigue de la Pologne de la guerre froide à Paris, incertain.
C'est brûlant.
À Berlin. Mais on est finalement dans cette passion très, très, très contrariée. Moi, je me suis laissée finalement avoir et la fin est sublime. Donc, faut rester jusqu'à la fin.
Allez, cinquième place, un film. Ah là, on peut le dire honteusement reparti bredouille de Cannes aux grandes dames, d'ailleurs, du Masque et la Plume. C'est Burning du coréen Lee Chang-dong, mais nos auditeurs ne s'y sont pas trompés. Film de 2h30 adapté d'une nouvelle de Murakami, elle-même inspirée de l'incendiaire de Faulkner, avec, il faut dire, un trio d'acteurs exceptionnels.
Ah, c'est magnifique. Et c'est une atmosphère incroyable. C'est des rencontres amoureuses, des apparitions, des disparitions, des serres en feu.
Et même un peu de thriller, d'ailleurs.
C'est un vrai thriller. Et un chat fantôme. Et c'est fascinant, c'est fascinant.
Que ce film n'ait pas obtenu un prix et ne soit pas reparti. C'est vraiment le jury de Cannes l'année dernière était vraiment.
Rappelle-moi qui le présidait.
Cate Blanchett. Mais c'est pas totalement peut-être de sa faute. Elle n'est pas toute seule à décider. En tout cas, là, c'est une erreur monumentale.
Si par hasard, je voulais la prendre au Masque et la Plume, je la prends pas, c'est tout.
Tu hésites, tu lui fais passer.
Elle a très envie de venir, mais je.
Non mais c'est magnifique quoi.
Moi je trouve que Lee Chang-dong est un immense cinéaste. J'émettrais un petit bémol, je trouve que le film dilue un peu justement. C'est un thriller triangle amoureux poético-marxiste qui dilue un peu trop son mystère. Je trouve si le film est un peu long et je trouve que les non-dits finissent par en dire un peu trop et je suis un tout petit peu déçu en deçà de votre enthousiasme.
Allez, on avance.
Mais c'est un grand cinéaste.
On a encore plein de films à voir. Quatrième place, Girl, le premier film du Belge flamand Lucas Dont, caméra d'or, voilà à Cannes. Avec cette révélation qu'est Victor Polster qui joue Lara, 15 ans, un garçon qui rêve de devenir danseuse étoile. C'est vrai que ce choc, c'est quand même ce Victor Polster.
Bah oui, et quand même le sujet, c'est-à-dire le sujet qui peut donner prise à toutes les pires extravagance, mauvais goût, timidité. Et là, c'est frontal et pudique en même temps, avec évidemment porté par cet incroyable garçon dont c'était le premier film. Et voilà, c'est très beau.
Et un très beau second rôle qui est le père,
le père,
qui est formidable aussi.
Troisième place, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis dans le rôle de ce couturier qui dessine dans le Londres des années 50 des vêtements de stars mais aussi de la famille royale et qui rencontre un jour une serveuse qui devient sa maîtresse et son égérie. Gros succès, 400 000 entrées.
Ah, moi, c'est mon premier. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Paul Thomas Anderson. C'est vraiment un grand film sur l'art qui rend malade, sur la vulnérabilité que requiert l'amour, sur l'être aimé comme obsession morbide. Il y a quelque chose de très hitchcockien dans le film.
Oui.
Et il y a une révélation incroyable qui est Vicky Creeps, qui est à la fois, il y a quelque chose de rustique et de l'altier chez elle, qui est magnifique. Et puis, Daniel Day-Lewis, son espèce de chant du cygne, où pour la première fois depuis longtemps, on le voit comme un personnage vraiment fragile derrière cette espèce de façade. Enfin, pour moi, c'est vraiment le chef-d'œuvre de cette année.
C'est le film que j'aurais souhaité personnellement être numéro un.
Deuxième place, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, l'adaptation du roman d'André Asiman, l'histoire d'amour en Lombardie, entre un garçon de 17 ans et un doctorant en archéologie de 24 ans, c'est Armie Hammer, le film qui a fait de Timothée Chalamet la vedette que l'on sait. Daniel ?
Oui, c'est un bel été dans la confusion des sentiments. Et voilà, c'est un scénario de James Ivory quand même, faut pas l'oublier.
Et un beau roman.
Et un très beau roman, et voilà, on y est dans ce bel
c'est
été.
Joli.
Plus que joli.
C'est joli.
T'as pas été touché du tout ?
Un peu, pas beaucoup.
Oui, c'est bien ce que je sens.
C'est un beau film, c'est étonnant de le trouver aussi haut, mais c'est un film dans lequel on a envie de vivre.
Voilà.
Donc je pense que les gens sont...
On est dans cet état-là.
Voilà. Ça te regarde si tu veux vivre dans ce film-là. Le 29e prix étranger des auditeurs du Masque et la Plume, il est attribué à trois billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh avec Frances McDormand dans le rôle d'une mère courage et blessée qui, 7 mois... après le viol et le meurtre de sa fille, va utiliser 3 grands panneaux d'affichage à l'entrée d'une petite ville du Missouri pour clamer sa grosse colère, agonisante et violée, toujours pas d'arrestation. Pourquoi ? Un film qui a reçu le prix du scénario à Venise et 4 Golden Globes.
Et l'Oscar de la meilleure actrice.
Allez, un mot.
C'est étonnant que ça arrive aussi haut et en même temps c'est rassurant parce que c'est vraiment pour moi le représentant d'un cinéma à l'américaine qui est en voie de disparition. C'est un cinéma d'acteurs, de dialogue. Moi j'ai l'impression de voir La Poursuite impitoyable revisité par les frères Cohen. Il y a quelque chose de...
Ça y est, qu'ils continuent à remettre.
Non mais parce qu'il y a vraiment ça, il y a quelque chose des années 60 dans cette peinture d'Amérique profonde à charge, parfois pas très subtile et en même temps un vrai plaisir du dialogue des acteurs et un côté satirique très, très plaisant quoi.
Oui mais Frances McDormand, qu'on adore depuis les frères Cohen, voilà, et elle est là tout le temps et elle serait là encore davantage qu'on serait heureux. Voilà.
Et Sam Rockwell, le second rôle. En flic borné, raciste, qui change et qui est très très bien.
Allez, maintenant le palmarès des films français plébiscités par les auditeurs du Masque et la Plume, voici les 10 premiers, loin devant ceux des films de Salvadori, de Jacques Audiard, de Quentin Dupieux, de Cédric Kahn ou de Gaspard Noé, ce qui ne me dérange pas follement. À la 10e place, eh bien, nos auditeurs ont bon goût. Ils ont choisi Scheherazade de Jean-Bernard Marlin, l'histoire d'amour à Marseille entre deux marginaux, le mot est faible, Zachary, 17 ans, tout juste sorti de prison, et Scheherazade, une jeune prostituée qui l'accueille chez elle.
Ouais, il y a toute une série de films comme ça qui sont très généreux, bien.
Oh, t'as l'air enthousiaste, toi.
Ouais, je suis pas si enthousiaste que ça. C'est bien, mais pas plus, voilà.
Moi, je trouve que, voilà, des ados mal partis, et pourtant, c'est un film qui a la force, la fougue, d'aller vers des jours meilleurs, et donc, qui sont tous formidables.
Non, moi, je trouve que c'est un petit miracle, ce film. C'est de prendre des gens comme ça, des vrais minots de la Belle de Mai, de les filmer comme des films de tragédie, mais sans misérabilisme, sans angélisme non plus, sans surplomb sociologisant. Il y a vraiment quelque chose de très romantique et de romanesque dans le film que je trouve très beau.
C'est sociologique, quand même.
À la 9e place, Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot, d'après un roman de William Burroughs, où 5 adolescents de bonne famille vont commettre un crime, vont être enchaînés très mal en point sur un voilier, et puis vont échouer sur une île sauvage et luxuriante.
Ouais, c'est la réhab musclée de garçon en effet sauvage. Alors c'est gothique, érotisé,
marin.
Transgenre dans tous les sens du terme.
Je suis surpris de le voir si haut quand même.
Oui, mais oui. Enfin, c'est étonnant. C'est vraiment un représentant d'un cinéma français que la critique aime beaucoup et qui je trouve ça ressemble encore trop à un court métrage. Et j'attends que le long métrage aboutit. Non, mais c'est très. Il y a plein de choses formidables.
Oui, mais enfin,
et puis on voit les références Cocteau, Jeunet, Kenneth Anger. Il y a beaucoup de. Mais c'est étonnant de voir.
Salut. Place Amanda de Michael Hirst ou Comment un garçon de 24 ans, Vincent Lacoste, dont la sœur a péri dans un attentat, doit s'occuper de sa nièce orpheline de 7 ans, Amanda, qui est une petite d'ailleurs formidable, qui s'appelle, je donne son nom, Isor Multrier. Voilà.
Sur un sujet qui, moi, vraiment me faisait très 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 peur, parce que je sentais le lacrymal, le sentimentalisme.
Bon, y en a.
Il y en a, mais un peu moins que ce que j'attendais, donc c'est plutôt une réussite.
Oui, non, c'est un film doux sur le deuil, et Vincent Lacoste, en jeune tonton tuteur, est bien, et la petite est formidable, Isor Multrier, 7 ans. Donc voilà, c'est résilience.
Oui, moi j'aime la façon dont il filme le Paris post-attentat. Je trouve que Lacoste est bien. Après, c'est effectivement un film modeste qui prend toujours un pas de côté sur le spectaculaire. Je trouve ça assez touchant. Après, oui, le retrouver aussi haut, effectivement,
En septième position, En guerre de Stéphane Brisé, film coup de poing, vous le savez, tourné en 23 jours, où Vincent Lindon prend la tête d'un mouvement de révolte dans une usine d'Agen qui va fermer si un repreneur ne se manifeste pas.
C'est la quatrième fois que Vincent Lindon et Stéphane Brisé travaillent ensemble. Il y a eu la loi du marché qui a été un très très gros succès. Et celui-là qui est quand même aussi passionnant, avec une immersion totale à travers ces luttes syndicales, n'a pas eu quand même l'accueil, je trouve, qu'il méritait.
Ouais, et c'est très très bien, parce qu'en le revoyant, je l'ai revu là, et ça a une force quand même incroyable. Donc c'est vraiment bien.
En sixième position, Guy de et avec Alex Lutz dans le rôle de Guy Jamais, chanteur démodé, ayant eu son heure de gloire dans les années 70, 80, même d'ailleurs 60, qui s'offre après un AVC une dernière tournée qui raconte sa vie à un jeune documentariste. On va pas en dire plus. On croise ici, il n'y a pas Daniel Eman, mais il y a Julien Clerc, il y a Dany. Non, mais tu pourrais y être. Hein. Il y a Michel Drucker.
Je ne sais pas comment je dois le prendre.
Oh non, bon, tu sais. Il y a quand même le jeune Michel Drucker. Il y a
le jeune Julien Clerc.
Et puis il y a une BO qui est très convaincante.
Mais absolument, non. Moi, j'adore ce film. Je trouve que vraiment la prestation d'Alex Lutz est phénoménale. Maquillé, grimé, 5 heures de maquillage tous les matins. Oui. Et c'est profondément touchant. Bon, il y a des choses assez drôles. Et la BO est tout à fait légitime. Et c'est vrai que c'est un personnage. Il y a aussi des rapports familiaux. Il y a un cheval à la fin.
Pas qu'à la fin. Et il monte bien, en plus. Oui. Et il monte bien, Alex.
Ce qui est fou, c'est que depuis que ce vieux chanteur démodé a surgi dans nos vies, c'est comme s'il avait toujours existé.
On y croit.
Il a existé parce qu'il est entre Daniel Guichard et Guy Bedos.
Mais c'est exactement ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas eu vraiment de succès en salle. Non. Et les gens le découvrent petit à petit. Et je pense qu'il va créer la surprise au César.
Mais pour dire vite, enfin, on récompense là l'acteur et le scénario. Parce que question mise en scène.
Mais la mise en scène, elle va avec le sujet.
Mais
attends,
c'est un concept. Il n'y a pas de mise en scène de cinéma. Je suis désolé.
La mise en scène de faux documentaire.
Cinquième position, plaire, aimer et courir vite. Le choix des auditeurs pour Christophe Honoré. Une histoire d'amour au début des années 90 entre un étudiant breton, encore Vincent Lacoste. Il y a d'autres films avec Vincent Lacoste, hein. Et un écrivain parisien deux fois plus âgé, Pierre de La Donchamp, qui est atteint du sida. Il y a aussi un rôle assez émouvant d'ailleurs pour Paul Daniels.
C'est le meilleur film d'Honoré pour moi, enfin le plus sensible en tout cas, et avec un Pierre de La Donchamp absolument génial, je trouve. Oui.
Non, mais c'est une histoire d'amour tendre et tragique, et Paris est magnifiquement photographié.
Je ne dirais pas plus, sauf que c'est en absence au César et aberrante. Oui. Il est représenté que par Denis Podalydès en second rôle, ce qui est une aberration. Oui.
Quatrième position, Mektoub My Love, Canto Uno, le film d'Abdelatif Kechiche, dont je rappelle qu'il a eu deux fois le prix des auditeurs du Masque et la Plume, pour l'Esquive et pour La Vie d'Adèle. Un film de groupe et de jeunesse sur une plage de Sète en 94, très sensuel, très kechichien. J'allais dire.
Oui, c'est les anges de la télé-réalité filmés par l'ange de la création. je trouve que ça résumait bien le truc.
Voilà encore un absent des Césars.
Oui, aberrant, parce que c'est un film, effectivement, il faut y aller, c'est épuisant, c'est troublant, mais ça finit par être sublime. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau.
C'est pas aberrant qu'il y soit pas, et c'est pas sublime qu'il. Le film n'est pas sublime. C'est un mot pas très bon kechiche, quand même.
C'est
légèrement voyeur, pas très convaincant.
Bah non, moi je. très très physique, très très érotique, très très ensoleillé. Et bon, ça fait de nous des voyeurs tout à fait consentants, mais enfin bon...
Des voyeurs honnêtes. Troisième place, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, qui a rassemblé autour du bassin 4,5 millions de spectateurs français, et qui raconte comment sept éclopés réunis dans une équipe de natation synchronisée vont revenir à la vie, avec évidemment sous le bonnet en caoutchouc, maintenant tout le monde les connaît, Mathieu Amalric, Benoît Poulvord, Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade, et surtout Philippe Catherine,
film qui avait été
encensé au Masque et la Plume, ce qui m'avait valu à l'époque un courrier incendiaire des auditeurs du Masque et la Plume, et je vois qu'ils le mettent quand même en troisième place, ce qui est quand même pas mal.
Ouais.
Et que Philippe Catherine est nommé au César.
Non, c'est bien, c'est sympa. Mais enfin, je suis énorme dans cette liste. Enfin, c'est vrai que par rapport, il n'y a pas la douleur d'Emmanuel Finkiel, il n'y a pas la prière de Cédric Gann.
Pas en plus engueuler les auditeurs.
Ben, je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, chers auditeurs, pas en trois, quoi.
Non, mais moi, je suis content. Après, il est vraiment haut, mais je suis content que, pour encore une fois, un film qui redonne ses lettres de noblesse à la comédie populaire, en injectant de la mélancolie et plein d'obsessions très contemporaines, je trouve ça bien. Après, c'est vrai que c'est haut. Je suis d'accord sur la douleur, mais moi, c'est plutôt un autre film qui m'embête dans ce classement.
Non,
moi,
je... c'était pas passionnant, ce que j'avais à dire. Ok, bon.
Deuxième place, Mademoiselle de Jonquière, le premier film en costume d'Emmanuel Mouret, film avec lequel je me suis d'ailleurs réconcilié avec Emmanuel Mouret, adapté de Diderot avec Cécile de France, jeune veuve qui cède aux traits libertins, et formidable, il faut dire. Édouard Baer, avant d'exercer sa vengeance, c'est un peu du Laclos version Romer, comme dirait Nicolas Chalère, en une formule.
Vas-y.
Ah non, moi c'était plutôt une liaison très peu dangereuse au temps de la SFP, mais... j'ai vraiment découvert ce film après coup. Alors effectivement, en termes de dialogue, c'est très très bien écrit. Après, moi, pour le coup, je cherche le cinéma et je suis très déçu que ce film soit aussi haut, alors que La Douleur de Finkiel, vraiment, il y a du cinéma,
on est bien d'accord.
Ne soit pas du tout présent dans le film.
Ça, tu trouves qu'il n'y a pas de cinéma dans ce film-là?
Ah, il y a du dialogue, mais alors je cherche encore le...
Non, je trouve ça très plat. Non, je ne suis pas du tout d'accord, non. Autant je suis triste que La Douleur ne soit pas plus haut, en effet, mais Mademoiselle de Jonquière, c'est vraiment le saut périlleux vers le film d'époque d'Emmanuel Mouret, qui était vraiment un personnage dans tous ses films de Candide maladroit. Et là, c'est somptueux, c'est élégant, c'est beau.
Et les deux comédiens sont exceptionnels.
Et c'est magnifiquement joué.
Je signale juste que sur le même sujet... le même scénario, d'après Diderot et tout, il y a un film absolument génial qui s'appelle Les Dames du Bois de Boulogne.
Oui, Bresson,
de Robert Bresson.
Oui,
eh ben oui, ça, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé de le rappeler.
Il y a un moment, il y a prescription.
Et puis Robert Bresson n'a pas été retenu au César, je crois. Non. Et le 29e prix des auditeurs du Masque et la Plume est attribué à Xavier Legrand pour son premier film, Jusqu'à la Garde. Dans l'histoire de ce prix, cher Xavier, quatre réalisateurs l'ont reçu avant vous pour un premier film. Je veux quand même les citer. Cyril Collard pour Les Nuits Fauves en 92, Éric Zonka pour La Vie rêvée des anges en 98, Dominique Moll pour Harry, un ami qui vous veut du bien en 2000, et Thomas Caillet pour Les Combattants, c'était en 2014. Qu'ils soient attribués par des spectateurs et non par des professionnels, est-ce que ça vous touche, Xavier Legrand ?
Bien sûr, oui, c'est comme dans les festivals, quand on reçoit le prix du public, c'est pas que je méprise les autres prix, au contraire, mais le prix du public, le prix des auditeurs, le prix des gens qui se déplacent au cinéma et qui ont envie de saluer votre travail, c'est touchant. Parce que...
Et puis là, ils vous ont vraiment mis très haut dès le début de leur vote. Ils avaient fait un choix presque évident, prédéterminé. Je rappelle quand même que Jusqu'à la Garde a obtenu le Lion d'argent à Venise.
Et un autre prix qui était le Lion du futur, que c'est le plus beau prix qu'on puisse imaginer.
Le prix de Luc du premier film qu'on est certain à connaître ici, et que avec Le Grand Bain, votre film est en tête avec 10 nominations pour les prochains Césars qui seront décernés, c'est vendredi prochain, le 22 février, salle Pleyel, qui est beaucoup plus petite que l'Alliance française, mais ça vaut le coup quand même de regarder. Et enfin, il faut ajouter que vous avez rassemblé 380 000 spectateurs en France. Tout ça, ça donne un peu le tournis, non ?
Oui, ça donne le tournis, mais en même temps, je suis très content, très fier. Enfin, j'en profite, quoi.
Vous avez bien raison. Alors, on va évidemment parler tous ensemble, y compris avec les spectateurs réunis ici à l'Alliance française, de ce film très, très, très fort. On demandera à Pierre Murat de ne pas raconter l'épilogue, même s'il est très dur.
Ah bon ?
Avant de parler du film, parlons un peu de vous, puisque ce n'est pas vous faire injure que de vous dire qu'on vous connaît un peu moins que Jacques Audiard ou que François Ozon. Alors, vous m'arrêtez, hein. Vous êtes né en 1979.
C'est ça.
Ça, c'est bon. Là, j'ai bon. Vous n'êtes pas, contrairement à beaucoup de jeunes cinéastes, un enfant de la balle. Hein. Votre mère n'était pas comédienne et votre père n'était pas cinéaste. Votre mère était infirmière, je crois. C'est ça. Et votre père, surveillant de prison. Tout ça, c'était à Paris ?
Non, c'était pas à Paris, c'était en province. Enfin, je suis né en région parisienne, mais j'ai en fait beaucoup déménagé car mon père était muté par son travail dans de nombreuses villes.
D'un lieu à l'autre. Ouais. Et ce qui m'intéresse évidemment, ce qui nous intéresse tous, c'est que vous êtes d'abord acteur. Et votre parcours, c'est vraiment celui de quelqu'un qui passe le conservatoire et qui va faire, notamment au TNP de Villeurbanne, beaucoup, beaucoup de pièces avec beaucoup de metteurs en scène, dont Schiaretti. Est-ce que c'est ça qui est peut-être le plus important de votre évolution artistique, ce passage par le conservatoire et votre...
Ah oui, oui, la scène, oui, c'est sûr. Et en plus, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 10 ans.
Donc, c'est 10 ans ?
Oui, j'avais 10 ans, oui. Et j'ai commencé à prendre des cours privés. Et puis, ensuite, j'ai passé un bac théâtre et j'ai fait des conservatoires d'arrondissement pour pouvoir préparer le concours du Conservatoire National. Puis, je suis rentré dans la troupe du TNP et un peu aussi dans la troupe du TNS à Strasbourg. Donc, c'est vraiment une sorte de long cheminement avec la scène. Ouais. C'est vraiment une partie importante.
Mais comment le cinéma arrive dans votre vie, alors ?
Il arrive par l'écriture. Un désir d'écrire, un désir de diriger les acteurs aussi, je crois. Mais je voulais écrire pour le théâtre. Ah et oui. En fait, voilà, je me suis aperçu que j'étais quand même plus doué pour écrire pour le cinéma. Je pense que j'étais trop timide. Je ne voulais pas me confronter aux auteurs que je jouais moi-même. Donc oui, c'est venu assez naturellement et assez progressivement.
Et vos modèles, parce que on va parler du film, bien sûr, très longuement, mais et on voit bien l'influence du théâtre dans ce premier film. Vos grands modèles cinématographiques, c'était qui ?
Je le dis toujours, c'est Chabrol, Haneke et Hitchcock. Ça, c'est mes trois papas.
Ce qu'on retrouve, évidemment, dans Jusqu'à la garde, qui s'ouvre par un plan... Alors, dans mon souvenir, c'est 15 minutes, c'est plus, c'est moins ?
La première scène ?
Oui, la première.
C'est 15 minutes, oui.
15 minutes, en presque plan-séquence... Et là, je raconte évidemment un peu le film pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Il est d'ailleurs disponible en DVD depuis quelques mois. Dans le bureau d'un juge, un couple divorcé se dispute la garde d'un garçon de 11 ans, Julien. Julien qui est joué par Thomas
Gioria.
Et Thomas est là avec nous ce soir. Peut-être que tout à l'heure, il aura la gentillesse de nous dire quelques mots.
Nommé au César du meilleur espoir masculin, ce qui est très rare à son âge.
Et Gioria a aujourd'hui, Thomas, il a aujourd'hui 15 ans, 16 ans. La mère Myriam, jouée par Léa Drucker, en réclame la garde exclusive, donc chez la juge. Le père Antoine, Denis Ménochet, veut sa part. La juge ne sait pas quelle décision prendre. Ce qui est intéressant, c'est que le spectateur non plus, pendant cette séquence, puisque la mère a presque un air hostile. Et le père, qu'elle accuse de violence grave, réussit pendant cette scène à avoir un côté presque touchant.
Un peu nounours,
absolument. Et ça marche puisque la juge accorde aux parents la garde partagée du garçon. La suite est une longue et inéluctable descente aux enfers jusqu'à une fin glaçante. Avant de vous laisser poser des questions à Xavier Legrand, je voudrais juste savoir, j'ai beaucoup lu que le film était issu d'un premier court-métrage Avant que de tout perdre, avec les mêmes acteurs d'ailleurs, qui avait été primé à Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le court-métrage et Jusqu'à la garde ?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Jusqu'à la garde était déjà dans le court-métrage.
C'est la matrice, oui.
Oui, j'avais en fait mon projet. Je voulais faire une sorte de trilogie tragique en faisant trois courts-métrages justement sur le thème de la violence familiale. Et en fin de compte, en faisant le premier épisode qui était Avant que de tout perdre, je me suis aperçu que la suite allait être plus compliquée à faire en deux films. Donc c'est pour ça que j'ai rassemblé les deux films pour faire un long et c'est devenu Jusqu'à la garde.
Comme vous avez eu raison.
Merci.
Nicolas.
Oui, mais moi je voulais un peu. C'est vrai que le film était sorti il y a presque pile un an, entre l'affaire Weinstein et la Saint-Valentin, étonnamment. Enfin, ça résume bien le contexte.
T'as un drôle de cerveau. Là,
il est vraiment bien tombé quand même. Non, mais je voulais savoir si depuis.
T'as pas des problèmes dans la vie, toi
Non, mais C'était, non, mais c'est vrai que c'était
non, mais la référence de Nicolas.
Pile au moment de Saint-Valentin, j'ai pas de bêtises.
C'est, oui, oui, c'est ça. C'était oui, une semaine avant. Oui, on est sorti le 7 février. L'année dernière.
Et donc, je voulais
savoir. D'ailleurs, je salue aussi Alexandre Gavras, qui est là, le producteur, dans le public, le producteur de ce très beau film, Nicolas.
Moi, je voulais parler notamment d'un aspect du film qui est vraiment très important. C'est un film où le son a un rôle énorme. Et je crois, même si je dis pas de bêtises, que vous avez mis en scène le film par le son. Avant même de le tournage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça?
Oui, pour certaines séquences, effectivement, j'avais demandé à l'ingénieur du son de déjà préparer, de monter le son pour mettre vraiment les acteurs en immersion. Et ce son-là était d'abord déjà écrit, c'est-à-dire que dès l'écriture, dès la description des scènes, je décrivais vraiment précisément les sons qu'on entendait, le silence, et là on entend, hop, et elle écoute. Et voilà, tout était vraiment une vraie partition déjà musicale écrite.
Parce qu'il faut savoir que c'est par là que le thriller se joue, il n'y a pas de musique dans le film, musique hors contexte.
C'est ça, la musique se fait juste par les sons du quotidien.
Et le thriller passe par là, quoi.
Oui.
Et voilà, effectivement, je rebondis et je continue sur ce thème, sur le son, c'est-à-dire que l'ouverture du film, c'est l'arrivée vers un bureau des avocats et de la juge sur leurs talons hauts, et la menace est déjà là. Oui. Le claquement des talons qui va vers un bureau où on ne sait pas du tout ce qui va se passer, il y a une menace qui s'installe. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça?
Ah oui, oui, c'est ce que je voulais. C'était avoir ces deux femmes, donc c'est la juge et la greffière qui sortent de l'ascenseur pour se rendre à leur bureau. Elles font quelques mètres.
Voilà.
Mais juste ce rythme saccadé des talons, déjà énerve.
Oui, il y a quelque chose, un peu. Il y a une menace.
Voilà, et c'est, attention... J'ai envie de dire, ouvrez vos oreilles.
Oui.
Parce que tout le film va être là-dessus. Surtout qu'en plus, on commence par cette séquence qui n'est que verbale, pratiquement. Ce sont cinq personnages qui sont
autour d'une table. Oui, mais
qui est presque un plan séquence, hein, presque.
Non, c'est pas presque. Il y a quand même un montage, mais il y a des longs, plans séquences, mais c'est quand même monté. Mais c'est vrai que c'est pour préparer un peu le spectateur dans une sorte de crispation et de tension auditive, effectivement. Voilà.
Pierre.
Puisque vous êtes acteur, je voudrais vous demander comment vous avez dirigé vos trois comédiens, parce que je pense qu'on ne dirige pas pareil Léa Drucker et Denis Ménochet. Alors, surtout Denis Ménochet, qui a quand même le sale rôle de l'histoire, comment le préparer à ça? Et pour Thomas, le jeune acteur, je crois que j'ai vu que vous lui aviez fait répéter des séquences d'autres films.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé pour les trois?
Oui, je crois que j'ai préparé les rôles avec eux de façon différente. Léa n'a pas besoin qu'on lui parle beaucoup. Donc je lui ai donné plein de choses, des témoignages. Et puis avec l'expérience du court-métrage aussi, fait qu'elle avait déjà le rôle quand même intégré en elle. Alors que Denis, on a beaucoup discuté, beaucoup remis en question les choses, ne serait-ce que les dialogues, les actions. Il a fallu que je le convainque de certaines choses. Il a voulu passer par d'autres choses, essayer d'autres choses. Et puis finalement, je l'ai laissé faire pour qu'il puisse comprendre où je voulais en venir, parce qu'il fallait assumer un rôle pareil, en fait. Oui, et c'est ça tout le problème qu'on a eu, toute la question qui s'est posée à Denis et moi, c'était comment donner l'humanité à
Il a renaclé, parfois, ce que vous lui demandiez, il a renaclé ou...
Oui, je me souviens d'une fois où il remettait en question, par exemple, cette scène où, après qu'il y ait une étreinte, où c'était écrit, il se dégage de l'étreinte, il prend un morceau de son pèlerin, il se mouche. Il m'a dit, mais quand il se mouche, c'est quand même drôle. J'ai dit, je crois pas, non, je crois que ça peut être très pathétique et en même temps, ça fait partie de sa manipulation. Donc il dit, bon, ok, je vais essayer de le faire. Et puis il l'a fait et je crois qu'il a dit, ok, et on a fait 2-3 prises, il avait compris, en fait, en le vivant, ce que je voulais décrire par cette petite action qui est vraiment anodine.
Xavier, si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on écoute Thomas qui est là dans le public.
Oui.
J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour un si jeune garçon de jouer un rôle qui peut être même peut-être traumatisant. Comment est-ce que tu l'as vécu, Thomas?
Déjà, faut savoir que oui, c'était difficile parce que j'avais deux grands comédiens en face de moi et trois aussi parce que Mathilde, celle qui joue ma sœur dans le film.
Oui, qui est la grande sœur aînée, qui est qui est un peu éloignée, je dirais, dans le scénario.
Oui, mais c'est quand même une actrice qui est formidable. Et c'était difficile parce que les acteurs ils jouaient tellement bien et je me sentais en fait vraiment dans la scène comme si j'étais dans la réalité. Donc du coup ça me faisait peur, mais en même temps j'avais l'impression d'être en sécurité, même avec Denis, parce que dans la vraie vie, c'est un véritable nounours qui est très sympa. Donc, du coup, eh ben, je me suis senti en sécurité aussi. Et voilà, et j'ai bien fait de me sentir en sécurité, et parce qu'au final, j'étais en sécurité.
Est-ce que Xavier Legrand donnait beaucoup de conseils?
Oui, il me donnait beaucoup de conseils, même à chaque prise. Voilà. Et Denis aussi me donnait beaucoup de conseils pendant les prises. Et il faut savoir aussi que j'avais une coach pendant le tournage qui s'appelle Amour. Et
oui, et un canon pareil déjà.
Et je l'ai vue avant le tournage et pendant le tournage. Donc du coup, j'ai beaucoup travaillé avec elle. J'ai travaillé avec elle tous les jours. Et voilà, j'ai lu le scénario avant avec elle. Je me suis préparé avec elle. Elle était là, vraiment là pour moi quand il fallait.
Et voilà. Est-ce que tu as souffert de cette histoire ou pas ? D'être confronté à une telle violence, parce qu'il y a une très très grande violence. Est-ce que ça a été douloureux ? Est-ce que ça a été difficile ?
Après, je pense que c'est le rôle d'un acteur. Enfin, c'est de.
C'est bonne de... réponse.
Bravo.
Tu as de l'avenir.
C'est de se mettre complètement dans la scène et avoir la même peur que Julien. Il avait peur, donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Denis et Léa, ils étaient tellement réels aussi, ils étaient tellement humains dans le film, que je me suis mis complètement dans la situation, je me suis branché aux autres acteurs, et voilà, c'est comme ça que j'ai joué la peur et tout ça.
Merci Thomas. Xavier, comment on trouve une perle pareille ? Si jeune.
C'est grâce à une directrice de casting qui a déjà sélectionné les bons enfants qui étaient capables de pouvoir jouer un rôle pareil. Et en fait, je l'ai découvert très tôt dans les premiers castings et j'ai eu une sorte comme ça d'évidence. Vous voyez, quand on l'entend parler, il a compris énormément de choses. Branché.
Et depuis, il a tourné un film.
Il a tourné un autre film.
Ouais. Hein. Comme quoi, il a de l'avenir. Évidemment, on en vient au sujet principal, enfin, le sujet de ce film. Moi, j'ai le sentiment que vous aviez, peut-être que je me trompe, mais beaucoup enquêté sur les violences conjugales auprès des policiers, des psychologues, des médecins, enfin tout. On ne peut pas être aussi précis dans ce diagnostic terrifiant, je dis bien terrifiant et révoltant, sans qu'ils imaginaient qu'il y a eu une grosse, grosse enquête de votre part, non ?
Oui, c'était essentiel pour moi, parce que c'est un sujet tellement... tellement douloureux, tellement aussi tabou, et puis qui a déjà été un peu abordé au cinéma de façon un peu contournée, que moi je me suis dit, si je me confronte à ça, il faut que je mette les mains dans le cambouis. Et donc du coup, j'ai fait des longues recherches et des longues immersions avant de pouvoir entrer en écriture, effectivement.
Mais oui, mais justement, il y a eu pratiquement 6 ou 7 ans entre avant que de tout perdre et jusqu'à la garde, c'est-à-dire qu'il y a eu une maturation. Mm-hmm. Et je trouve que Thomas Gioria dit des choses très, très justes sur la réalité et sur le naturel. Et on est dans cette vie, on est à l'intérieur de la vie de ces gens-là. Mm-hmm. Et c'est un film qui est très en mouvement, où il y a vraiment des scènes en voiture qui sont aussi dans la narration une sorte de menace. Simplement la façon, on en revient un peu au son, la façon simplement dont les ceintures de sécurité sont accrochées, c'est là encore une menace.
Mais ça, tu as raison, mais là je ne parlais pas plus de cinéma, je parlais d'une réalité qui est encore un scandale quotidien.
C'est ça, mais effectivement, c'est dans cette réalité, effectivement, que le film, d'une part, est bouleversant et ne vous quitte plus, quoi.
Et justement, je voulais savoir si depuis la sortie du film, ça fait maintenant un an, comme on a dit, est-ce qu'il a eu un impact sur la manière dont la...
Ah, ça n'a pas limité le nombre
de... Non, mais malheureusement, la justice française aborde ce problème. Ah, oui. Parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes qui sont liés aussi à la manière dont on voit bien quand ils sont face aux avocats au début. Est-ce qu'il y a eu un impact?
Alors, il y a des démarches. Moi, j'ai fait des projections à la Maison du Barreau de Paris. Il y a quelque chose au mois de mai qui est fait avec le DGI de Pontoise, avec des juges affaires familiales, mais non, il se passe rien en fait. D'ailleurs, j'ai le regret de dire que depuis le 1er janvier, 18 femmes ont été assassinées par leur mari. Ce qui veut dire que l'année dernière, on était
depuis
une femme.
Depuis le 1er janvier, depuis 18 le 1er janvier femmes 2019,
18 femmes ont été assassinées par leur mari. Ce qui veut dire qu'on en est à deux jours, et alors que l'année dernière, on était une tous les trois jours. Donc c'est vraiment compliqué. Le gouvernement ne fait rien.
Et ce que vous expliquez aussi et que vous montrez dans le film, c'est que c'est souvent après la séparation.
Oui.
C'est
oui,
ça
oui.
qui est aussi la nuance qu'on ne conçoit
alors,
pas.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il oui. faut qu'on... je pense qu'il faut qu'on revoie tout le vocabulaire par rapport à ça, même de la dénomination de violence conjugale. Mmh. On dit violence conjugale, donc ça veut dire déjà qu'on nomme une violence entre conjoints. Ce qui veut dire qu'on oublie les enfants dans le débat. Ce qui veut dire aussi, c'est de poser la question, est-ce qu'un conjoint violent peut être un bon parent ? Ça, c'est aussi une question à laquelle il faut vraiment qu'on réponde. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond à trouver sur justement le problème de l'éducation, le problème de la violence dans la famille, qui ne peut pas rester que justement que entre conjoints quand il y a des enfants. Et c'est effectivement au moment de la séparation ou après que les assassinats arrivent. Pour ça, on a toujours une sorte de champ lexical de drame passionnel, en disant drame familial. Non, ce sont des meurtres conjugaux. C'est pas une femme qui est morte sous les coups de son compagnon, c'est-à-dire que c'est pas un coup plus violent que l'autre qui fait qu'elle est tombée par hasard. Non. C'est « tu me quittes, je te tue ». Et c'est ça qui se passe tous les deux jours dans notre pays.
Si vous prenez l'émission en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec Xavier Legrand, le lauréat du 29e prix des auditeurs du Masque et la Plume pour Jusqu'à la Garde. On va peut-être donner la parole au public. Peut-être une question encore.
Oui, je voudrais revenir. Je voudrais revenir sur le film. Moi, il y a quelque chose. Il y a un personnage très important dans le film pour moi, c'est l'appartement. Mm-hmm. Je crois que vous l'avez reconstitué en studio, en quelque sorte, parce que vous ne l'avez pas trouvé, oui. ce que vous cherchiez, c'est ça ?
Exactement.
Parce que je crois qu'il fallait que la salle de bain soit au centre de cet appartement, en quelque sorte, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je voulais vraiment que justement cet appartement qui est censé être l'appartement de liberté, puisque c'est une femme qui se reconstruit, qui se sépare de son mari violent et qui va essayer de retrouver un appartement, du coup devient une sorte de libération, et en fait ça va être l'endroit de la prison.
Oui, oui.
Et je voulais qu'effectivement la pièce dans laquelle le film se termine soit au centre de cet appartement autour de laquelle on circule. Et c'est vrai qu'on a visité de nombreux appartements qu'on n'a jamais trouvé.
Dans le public de l'Alliance française, un fidèle de l'émission, monsieur, bonsoir.
Je suis très content que vous soyez lauréat, puisque j'avais pris la parole ici pour dire le plus grand bien que je pensais de ce film.
Absolument, je m'en souviens.
Malgré que je déplore que mon numéro 1, La Douleur, n'est pas là. Mais je voulais revenir plutôt que sur la violence. J'adore les films de Tati. Je m'aperçois aujourd'hui que le son commence à rentrer d'une façon importante dans les films. Je pense à The Square, par exemple, où le son est important. Et j'ai effectivement noté ça, et j'ai énormément aimé dans la deuxième partie du film, vous vous filmez dans le noir, et comme on est déjà rentré dans la pièce, il est déjà rentré chercher son fils, on a déjà exploré la pièce, et j'ai trouvé ça très gonflé de votre part, de filmer dans le noir avec le son, c'était absolument remarquable. Et j'ai vu que les Césars, j'ai vu des affiches, et je trouvais que votre affiche était absolument remarquable, et était tout à fait symbolique du propos.
Merci, monsieur. Voilà.
Une question en haut au balcon du Théâtre de l'Alliance française, bonsoir.
Bonsoir. Tout d'abord, bravo, parce que je trouvais vraiment le film formidable. Et justement, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est à la fin, sur le dernier acte du film.
Aïe, 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 aïe.
Vraiment, sans en dévoiler trop.
Ah, d'accord.
Mais je trouve vraiment, on change complètement de genre, en fait. J'ai l'impression qu'on passait du drame presque dans le film de genre et presque dans le thriller ou le film d'horreur. Et je voulais savoir comment vous êtes venu à l'idée, en fait, tout ce dernier acte, comment vous l'avez... Vous imaginez, en fait.
Xavier Legrand.
Eh bien, je l'ai imaginé avec tous les témoignages que j'ai reçus. C'est-à-dire, effectivement, comment une situation d'une famille posée sur le bureau d'une juge peut nous amener dans une baignoire, dans l'horreur la plus totale. Donc, moi, cinématographiquement, il fallait que je tienne le choc. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que tu racontes un sujet de société, mais restons dans le cinéma. Donc j'avais tout le temps dans la tête, il faut que je commence comme Kramer contre Kramer et que je finisse comme Shining. Et c'était ça, en fait, le défi du film. Voilà.
Ben, il est réussi parce qu'effectivement, vous avez révélé la baignoire, je ne voulais pas le faire, mais vous l'avez fait. C'est vous l'auteur, après tout.
Oui.
Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est un film d'horreur, mais ce qui fait le plus peur, c'est que c'est un film d'horreur vraisemblable.
Oui.
Vrai. Et peut-être même de l'autre côté du palier de nos appartements. Et ça, c'est terrible, quoi. Oui, Pierre ?
Oui, d'ailleurs, là aussi, je voudrais que vous aviez des portes, parce que les portes sont très importantes. En général, c'est Lubitsch qui filmait très, très, très bien les portes, que vous savez, dans un autre genre. Et vous, les portes ont un rôle très, très important.
Mmh, oui.
Pour de la voisine, par exemple.
Oui, bah, après, c'est un peu naïf de dire ça, mais littéralement, c'est les choses qui se passent derrière les
derrière
portes.
La porte, hein.
Et donc, c'est vrai qu'en plus, la porte me permet dramaturgiquement de passer d'un point de vue à l'autre. Dans le film, puisqu'on passe une porte, on est la juge, puis on va passer une autre porte à partir du moment où on va devenir l'enfant, puis il y a une troisième porte qu'on passe quand on va être du point de vue de cette femme. Ouais. Donc oui, c'est une sorte de symbole un peu assez frappant.
Encore une réaction dans le public ici, bonsoir.
Bonsoir, moi j'avais juste une question, c'était qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire sur ce sujet qui est quand même un sujet assez tabou et assez caché, même ne serait-ce que pour les femmes qui ne veulent pas en parler. Qu'est-ce qui vous a fait écrire là-dessus et donner envie d'en parler ?
Déjà, mon engagement de citoyen. Je supporte pas de savoir que tous les trois jours, une femme est assassinée dans mon pays par son conjoint sous prétexte qu'elle a décidé de partir, de le quitter. Puis parce que, voilà, je pense que c'est un sujet dont il faut continuer à parler, que les hommes doivent prendre la parole, parce que c'est que des femmes qui le font. Donc... et voilà, et parce que c'est aussi l'essence même de la tragédie. Moi, je suis passionné, alors c'est pas une passion douteuse, mais j'aime beaucoup les affaires criminelles, faites entrer l'accusé, ce genre d'émission. Mais dans 90% des cas, il y a de la violence conjugale bien avant. Mmh. Et c'est ça, en fait, et ça, on n'en parle pas. Et le mal, il est là, en fait. Donc c'était ça que je voulais vraiment aborder, une sorte de montrer ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, c'était ça le défi.
Daniel.
Moi, je voudrais savoir comment est venu ce titre magnifique à double sens, parce que jusqu'à la garde, lorsqu'une épée est plantée jusqu'à la garde, c'est vraiment mortel, et jusqu'à la garde des enfants. Comment est venu ce titre magnifique ?
Il est venu par le mot garde, justement. C'est vrai que je sentais tout de suite qu'il fallait qu'il y ait ce mot, et effectivement, le jusqu'à la garde, c'est un terme de guerre, et là, on est vraiment dans une histoire de guerre. En plus, c'est une expression qui a pris. Enfin, on l'utilise pour je vais t'emmerder jusqu'à la garde. Donc, c'est vraiment jusqu'au bout, et c'est ce que va faire un des personnages dans le film. Effectivement, il y a aussi le mot littéral de la garde. Jusqu'à la garde, on pense quelque chose. Une fois que la garde a été statuée, on va découvrir d'autres choses. Et puis, c'est aussi parce que c'est un terme un peu de domination masculine.
Moi, je voulais savoir, parce que le film est sorti dans 60 pays, je crois, à peu près. Enfin, si je dis pas de bêtises.
Oui, dans ces eaux-là, je crois. Un peu moins.
Dans ces eaux-là.
Et est-ce que justement, il est reçu, parce que il y a une ambiguïté tout au long du film sur qui est vraiment le coupable, en tout cas, qui est la victime. Je voulais savoir est-ce que ça varie selon les pays? Est-ce que le film est reçu différemment? Est-ce que le rapport à ce thème de la violence conjugale, on le ressent différemment par rapport aux réactions du public dans chaque pays?
Alors, le choc émotionnel est assez commun chez tous les spectateurs de toutes les cultures. J'ai senti vraiment des réactions très épidermiques avec le film. Par contre, pour ce qui est de la thématique, effectivement, il y a des réactions très différentes. J'ai senti qu'en Suisse, on n'avait pas trop envie d'en parler.
Quelle surprise!
Voilà. Donc, ça n'a pas très bien marché. Au Canada, en revanche, ils sont absolument mais scandalisés qu'un enfant puisse se retrouver dans une situation pareille, puisqu'eux ont développé depuis des années. Ben parce que quand un enfant parle et a une audition, on ne fait pas que l'écouter, mais on essaie quand même de l'entendre vraiment. Et on fait des enquêtes sociales, ce qui fait qu'ils ont réduit de moitié les Canadiens des meurtres conjugaux en faisant de la prévention.
De moitié ?
Oui.
On pourrait peut-être s'inspirer.
Oui,
c'est
ce qu'on essaye de faire, mais bon. Visiblement, c'est pas la priorité gouvernementale. Mais ça dépend en fait.
Il a mieux marché dans certains pays que.
Oui, il a beaucoup marché en Espagne. C'est une thématique en Espagne qui est très forte. Ouais. En Angleterre aussi, je crois que c'est plus le côté thriller du film qui a plu. Donc ça dépend un peu, des cultures, mais ouais. Il y a des réactions différentes forcément.
Alors au Masque et la Plume, où le film avait été encensé, c'est rare. Éric Nehoff avait dit « Je suis très ennuyé pour le réalisateur parce qu'il va avoir du mal à faire un deuxième film aussi bien. » C'est du pur Nehoff. Mais cela dit, il disait une chose juste. On parlait là du succès dans le monde entier de ce film. Qu'est-ce qu'on peut faire en deuxième film? Est-ce que vous avez déjà travaillé à la suite ou à autre chose?
Je travaille en écriture en ce moment, d'autres choses, une autre thématique, un autre genre de film, mais voilà, faut continuer à travailler. Et...
Mais ma question aussi, c'est pas trop dur?
Bien sûr que c'est un peu compliqué, mais en fait, ce que je me targue à me dire chaque matin quand je me lève, c'est que finalement, en fait, c'est le regard des autres qui ont changé sur moi. Mais moi, je dois pas changer ma façon de travailler. Je ferai le film que je veux faire et pas qu'on attend de moi. Alors après, c'est pas facile tous les jours, mais je me force à le penser.
Non, j'avais savoir, parce que ce qui est très intéressant dans le film, c'est que dans votre mise en scène, vous incluez le spectateur et la place du spectateur. Vous la prenez en compte dès le concept du film. Est-ce que le prochain sera la même chose? Je peux me permettre, mais je crois que j'ai lu que ça allait être une comédie noire, donc une comédie.
Oui,
donc,
c'est... noir. Avant,
tu le sais, toi,
Oui.
On se connaît bien.
On s'est parlé.
Une comédie noire.
Une comédie noire sur un rire culpabilisant. C'est toujours ça?
Un peu, oui, on peut dire ça.
Ça donne envie, en tout cas.
Ça donne envie, bah, tant mieux.
Le principe d'inclure le spectateur, enfin parce que c'est ça qui est beau dans le film aussi, et c'est du cinéma très fort, c'est que vous pensez à la position du spectateur, ce qui n'est pas toujours le cas des cinéastes.
Ça, c'est évident. C'est-à-dire que c'est dans mon. Enfin, j'ai envie d'écrire. Enfin, quand j'écris, je pense ligne par ligne au spectateur avant tout. C'est vraiment une. Mais c'est dramaturgique chez moi. C'est qu'est-ce que je lui donne à voir et qu'est-ce que je lui cache. Mais oui, ça c'est sûr que c'est un peu, oui, en prendre soin, le manipuler un peu, mais pas le prendre en otage non plus. Voilà, c'est quand même, oui.
Pierre.
Oui, on en revient justement à une de vos admirations, semble-t-il. Vous avez cité Hitchcock. Mm-hmm. Hitchcock faisait ça. Il y a une scène absolument magnifique dans le film où il y a Thomas et le père, et où vous l'utilisez comme un MacGuffin. C'est-à-dire que le spectateur sait qu'il va se passer quelque chose, il peut rien empêcher. Et c'est à partir de là que vous jouez sur la durée là pour créer une tension. Mmh. Est-ce que c'est ça l'essence pour vous de ce que vous aimez faire au cinéma?
Oui, c'est surtout en fait d'essayer de épurer les choses et de ne pas surexpliquer, c'est-à-dire de pas prendre le spectateur pour quelqu'un à qui il faut tout expliquer, parce que c'est bien de pas. Moi, je sais que j'aime bien travailler en tant que spectateur, et donc du coup, le fait d'être comme ça dans une appréhension d'un danger qui va arriver, le mettre dans un temps réel. Et le fait d'appréhender ce qui peut arriver, nous, on travaille en tant que spectateur.
Oui.
Et c'est ça qui, je trouvais, est intéressant. Plutôt que de mettre le spectateur en disant, vous inquiétez pas, hein, je vais tout, dans deux secondes, vous allez comprendre pourquoi il fait ça. Non, je trouve que c'est intéressant de le mettre en action et en doute et de se tromper aussi. J'aime bien me tromper dans un film. Quand je me dis à lui, et en fin de compte, non, c'est elle. Voilà.
Et le spectateur, il travaille vachement parce que les coups de poing que donne Denis sur le.
C'est la grande force du film de Xavier Legrand, c'est qu'il fait vraiment travailler depuis la première minute le spectateur.
Oui, c'est ça.
Et...
Parce qu'on est là, en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour intervenir, quoi, en quelque sorte.
Rien, à part regarder et essayer de...
Même dans la baignoire à la fin, on ne peut rien faire.
Ou ouvrir la porte.
Bon, l'émission va se terminer. Xavier Legrand, évidemment, on sait quel réalisateur vous êtes, mais on ne sait pas quel spectateur vous êtes. Est-ce que dans ces films sélectionnés, choisis par nos auditeurs du Masque et la Plume, est-ce que certains ont vos, peut-être un ou deux ou trois, vos faveurs en particulier?
Ah ben moi j'ai adoré le film de Christophe Honoré. Je le trouve en plus que oui, c'est sans doute peut-être son, enfin en tout cas c'est le film qui m'a le plus touché, et surtout qu'en plus il est vraiment en miroir avec les idoles à l'Odéon que j'ai vu sur c'est Lagarce, Guibert, enfin tous ces
tous
auteurs.
Tous les amis qu'on a perdus.
Oui, ouais, et je l'ai trouvé et je trouve que c'est un
plus sensible.
C'est le plus beau rôle de Vincent Lacoste aussi.
Et une pierre blanche. Voilà.
Évidemment, vendredi prochain, 22 février, on vous souhaite de faire une véritable rafle et d'obtenir tous les Césars que vous méritez, vous, évidemment, vous le cinéaste Xavier Legrand de Jusqu'à la Garde, mais également tous ceux qui vous ont entouré, les techniciens, les comédiens, dont Thomas Gioria, que je remercie encore de vous avoir accompagné ce soir. Je remercie évidemment Pierre Murat, Daniel Eman et Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam à la technique au Théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie Marie Le Peintre, Stéphane Touvenin, Inès De Bruyne. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, il aura lieu le jeudi 21 février au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Et avant de vous dire à dimanche prochain sur France Inter, évidemment, eh bien, je vous dis merci et encore bravo, Xavier Legrand, pour Jusqu'à la Garde.